Radio Prague, les informations.
Le gouvernement tchèque approuve un prêt de 1,5 milliard d'euros au renflouement du Fonds monétaire international. Augmentation importante du marché des crédits hypothécaires en République tchèque. Pierre Sarkozy hospitalisé à Odessa après avoir quitté Prague. Comme prévu, le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, a proposé mercredi au gouvernement une baisse à 1,5 milliard de la quote-part de Prague au renflouement du Fonds monétaire international pour aider la zone euro. Le gouvernement tchèque a approuvé cette somme, bien inférieure au plan initial selon lequel la contribution de Prague devait se chiffrer à quelque 90 milliards de couronnes, 3,5 milliards d'euros, soit 11% des réserves en devises de la banque. La somme approuvée devrait être tirée des réserves en devises de la Banque centrale tchèque, mais celle-ci doit encore donner son accord. L'année dernière, les banques ont accordé aux habitants tchèques 71 088 crédits hypothécaires pour 119 milliards de couronnes, 4,76 milliards d'euros, ce qui est une augmentation du volume des nouveaux crédits de 40% par rapport à l'année 2010. C'est ce qui découle des statistiques publiées par le ministère tchèque de l'aménagement du territoire. Selon les spécialistes, cette évolution serait due à plusieurs facteurs, dont les achats des biens immeubles avec un taux réduit de la TVA, le refinancement des crédits et le taux d'intérêt extrêmement bas. Le dernier recensement des habitants, des maisons et des logements ayant eu lieu l'année dernière a démontré que la population de la Moravie du Nord vieillit et que le nombre de foyers composés d'une seule personne augmente. Les résultats du recensement de la population ont été présentés à la presse ce mercredi dans la ville d'Ostrava, centre administratif de la région, par les délégués de la section régionale de l'Office national de statistiques. Pierre Sarkozy, fils aîné du président français, a été hospitalisé à Odessa en Ukraine après avoir visité Prague. L'état de santé du jeune homme connu dans le milieu musical sous le nom de DJ Mosé s'est détérioré dans l'avion le transportant de Prague à Odessa où il devait donner un concert dans un club de nuit. Selon les informations en provenance d'Ukraine, le fils du président souffrirait d'une intoxication alimentaire et devrait être rapatrié d'urgence par un avion spécial. Un ensemble de 44 œuvres du peintre tchèque František Kupka, qui a été acheté à l'historienne de l'art Lili Lohngren-Anders par la mécène des arts Madame Latkova, sera exposé au musée Kampa à Prague. L'ensemble acheté pour 500 000 dollars a été transporté des États-Unis à Prague par un avion spécial prêté par le ministre de la Défense Alexander Vondra. Madame Latkova a présenté ses œuvres d'art aux journalistes ce mercredi à Prague. Ces tableaux compléteront la collection d'œuvres de František Kupka qui est déjà exposée dans ce musée. Une unité spéciale de la police sera créée dans la région de Chluknov en Bohême du Nord. Les premiers membres de cette unité commenceront à opérer dans la région dès le 1er avril prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à la presse le directeur de la police tchèque Petr Lessi. L'unité aura 50 membres et sera installée provisoirement dans la ville de Varnsdorf. La région de Chluknov est assez souvent le théâtre des conflits entre la population majoritaire et la minorité rome. Météo. Mercredi, jour de fête des Miloches, le temps en République tchèque est nuageux avec des éclaircies par endroits. Les températures sont comprises entre moins 3 à 1 degré au-dessus de 0. Jeudi, le ciel en Tchéquie sera presque clair et les températures maximales se situeront entre moins 4 et 0 degré. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Guillaume Narguet.
Les événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en ce milieu de semaine figure tout d'abord la présence de l'armée tchèque en Afghanistan. En visite aux États-Unis, le ministre de la Défense a annoncé que la République tchèque pourrait décider de prolonger de 2 ans, soit jusqu'à la fin 2014, la mission des militaires tchèques en Afghanistan. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants. L'autre grand sujet d'actualité en ce milieu de semaine, c'est le tennis. Tomáš Berdych a été éliminé par Rafael Nadal en quart de finale. Petra Kvitová s'est-elle qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Et puis la seconde partie de notre programme sera consacrée comme chaque mercredi à l'histoire, avec aujourd'hui une très belle interview, un entretien avec Anita Rindt, une femme qui a fouillé les archives pour retrouver la trace de ses proches disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. On ouvre donc avec de la politique, comme annoncé en titre. Le ministre tchèque de la Défense, Alexandr Vondra, se trouve actuellement aux États-Unis. Mardi, à Washington, Alexandr Vondra a rencontré son homologue américain, le secrétaire à la Défense, Leon Panetta. Les deux représentants ont notamment négocié un contrat qui permettra aux entreprises tchèques d'avoir accès aux commandes militaires américaines. Mais au cours de cette visite, Alexandr Vondra a surtout annoncé avoir l'intention de prolonger de 24 mois, soit 2 ans, la mission des militaires tchèques en Afghanistan, alors que la fin de celle-ci était prévue en 2012. Plus d'explications avec Magdalena Rozinkova.
Together in, together out, a déclaré sur le sol américain le ministre de la Défense, Alexandr Vondra, en manifestant ainsi le soutien de la République tchèque aux forces de combat de l'OTAN qui devraient se retirer d'Afghanistan fin 2014. La République tchèque va ainsi à contre-courant de la France, où un débat sur le retrait anticipé de ses troupes a rebondi suite à l'assassinat vendredi dernier de 4 soldats français par un militaire afghan. Sans donner de précision sur le nombre de soldats tchèques qui seraient concernés, le ministre de la Défense a donc fait savoir qu'au printemps prochain, il proposerait au gouvernement et au Parlement de prolonger la mission des forces tchèques dans ce pays d'Asie centrale où elles sont présentes depuis 2002. La nouvelle a créé la surprise sur la scène politique tchèque. Dans le contexte actuel, il est très imprudent de faire des déclarations aussi importantes sans que celles-ci ne soient précédées d'un débat politique intérieur, a réagi dans un communiqué le Parti social-démocrate, principale force d'opposition. En 2011, le gouvernement avait bel et bien annoncé le début du retrait progressif des 700 soldats tchèques alors présents en Afghanistan. Actuellement, quelques 600 militaires tchèques y sont encore déployés. Rappelons que l'armée tchèque a envoyé un premier hôpital de campagne dans le pays en avril 2002, peu après la chute des talibans. Depuis, des médecins, des chimistes, des météorologues, des pilotes et d'autres spécialistes tchèques s'y sont succédés. Matyáš Zrno a dirigé la très réputée équipe tchèque de reconstruction de la province de Logar. Il explique le rôle de ce contingent.
Nous ne sommes pas en Afghanistan pour participer au combat, mais pour aider à reconstruire la province et protéger les experts civils. Nos forces ne sont pas nombreuses au point d'influer sur la situation militaire en Afghanistan, mais je crois que nous avons contribué à l'image plus humaine et amicale des forces internationales.
Pour le ministre Alexandr Vondra, l'éventuel prolongement de la mission tchèque permettrait de remplir l'un des principaux objectifs de la communauté internationale, transférer les pouvoirs à l'armée afghane afin que celle-ci parvienne à assurer elle-même la sécurité dans le pays. Matyáš Zrno est persuadé que l'Afghanistan aura besoin d'une certaine forme d'assistance même au-delà de 2014.
Les soldats comme les policiers afghans doivent encore beaucoup apprendre. Il leur faut encore travailler aussi bien leurs conditions physiques ou la manipulation des armes que la gestion des opérations militaires. C'est un travail sans fin car mettre en place une armée prend des années. Trouver par exemple des officiers dans un pays où la majorité de la population est illettrée est extrêmement difficile.
À Washington, les ministres tchèques et américains de la Défense se sont également entretenus sur le projet de mise en place avec leurs partenaires croates d'un centre de formation des pilotes de l'OTAN. Ce centre existe déjà à Pardubice, dans l'est de la Bohême, et il sert actuellement à l'entraînement des pilotes afghans.
Et puis on passe au sport et au tennis plus précisément. Pour la première fois de sa carrière, Petra Kvitová s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie à Melbourne ce jeudi. Et la Tchèque, qui est toujours en course pour la place de numéro 1 mondial, retrouvera la Russe Maria Sharapova, celle-là même qu'elle avait battue en finale de Wimbledon l'année dernière lors de la conquête de son premier titre du Grand Chelem. C'est fini en revanche chez les hommes pour Tomáš Berdych. Au terme d'une intense bagarre et d'un match de grande qualité, le Tchèque a été éliminé mardi en quart de finale finale par l'Espagnol Rafael Nadal. Tomáš Berdych va donc sans doute longtemps ressasser cette volée de revers qui a 6 points à 5 en sa faveur dans le jeu décisif de la deuxième manche est allé s'échouer dans le couloir. Si la balle n'avait pas fini sa course à quelques centimètres à l'extérieur de la ligne, le Tchèque aurait alors mené 2-7 à 0. On l'écoute.
Byl by to ten nejlepší možný začátek do zápasu. To nejlepší možný, jak bych mohl začít a on je obrovský.
Cela aurait été le scénario parfait, mais Rafael est un grand bagarreur. Même avec 2-7 de retard, il n'aurait certainement pas laissé filer le match. Le troisième set n'aurait donc pas été plus facile pour autant, mais il est évident qu'avec 2-7 d'avance, j'aurais forcément été plus proche de la victoire qu'à un set partout.
Au lieu de cela, c'est donc Rafael Nadal qui a remporté les deux points suivants, la deuxième manche, et a finalement composté en 4-7 son billet pour les demi-finales du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais face à un Berdych agressif et entreprenant qui avait décidé de tenter crânement sa chance, l'Espagnol a souffert avant de s'en sortir après plus de 4 heures de combat. Bien qu'éliminé, Berdych est donc sorti la tête haute de la Rod Laver Arena, même si...
Ce n'est pas suffisant et je ne peux pas m'en satisfaire. Bien sûr, il y a du positif à retirer de ce match, mais juste après, le sentiment qui prédomine, c'est d'abord la déception. Il ne m'a pas manqué grand-chose pour gagner. Mon idée était de m'accrocher le plus longtemps possible et de faire durer le match. Même si personne ne sait ce qu'il en est vraiment, on parle toujours des blessures de Nadal au genou et à l'épaule. Après quelques heures de jeu, ces blessures auraient pu le gêner. J'ai cru en mes chances jusqu'à la fin. J'ai même eu des possibilités de le débreaker, mais à chaque fois, Nadal a très bien joué ses points et a justifié son statut de deuxième meilleur joueur mondial.
Deuxième et meilleure joueuse mondiale, c'est aussi le rang que Petra Kvitova a fait respecter contre Sara Errani. Sans livrer un grand match, la gauchère tchèque possédait suffisamment de marge pour disposer en 2-7, 6-4, 6-4 de l'italienne, 48e mondiale et surprise de cet Open d'Australie. Petra Kvitova.
Tout le monde s'attendait à ce que je gagne facilement, que je lui mette 2 fois 6-0. Ce n'était pas facile à gérer pour moi. Je suis surtout contente d'être revenue dans le deuxième set alors que j'étais menée 4 jeux à 1. J'ai alors joué plus précisément en étant plus patiente dans l'échange. Je suis restée agressive mais sans forcément chercher tout de suite le coup gagnant. C'est bien pour la suite, gagner en 2-7 me permet d'économiser quelques forces.
Des forces, Petra Kvitova en aura besoin dès ce jeudi pour les demi-finales où elle retrouvera donc Maria Sharapova pour ce qui constituera une revanche de la finale du dernier Wimbledon. La Tchèque s'est alors imposée de fort belle manière et 6 mois plus tard, elle entend bien aborder ce nouvel affrontement contre la Russe de la même manière.
Ce sera un duel très suivi, un match sans doute différent, même si je vais m'y préparer comme pour la finale de Wimbledon. Je sais comment jouer contre Maria et que je suis capable de la battre. Il faudra que je reste agressive sans faire trop de fautes. Je pense que ça pourrait être un beau duel.
En cas de nouvelle victoire et de qualification pour la finale, Petra Kvitova se rapproche encore un peu plus de la place de numéro 1 mondiale, qu'abandonnera à l'issue du tournoi la Danoise Caroline Wozniacki. Mais quel que soit le résultat final de Kvitova à Melbourne, cet Open d'Australie est déjà une grande réussite pour un tennis tchèque qui revit ses dernières saisons, comme s'en félicite Tomáš Berdych.
Il a fallu un certain temps, ce n'est pas venu tout seul. Je pense que cela a commencé avec notre parcours en Coupe Davis il y a 2 ans, que nous sommes allés jusqu'en finale contre l'Espagne avec Radek Štěpánek. Il y a eu aussi ma demi-finale à Roland-Garros, suivie de ma finale juste après à Wimbledon, et depuis la saison dernière, les succès de Petra. Elle a fait aujourd'hui partie des 2 ou 3 meilleures joueuses mondiales. Je dois dire que j'ai très envie de l'imiter. Les performances de Petra sont une agréable source de motivation pour moi. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est assez incroyable d'avoir 2 joueurs appartenant à l'élite mondiale. Quand on regarde les Américains, par exemple, ils n'auront bientôt plus personne. Les Espagnols ont 10 d'excellents joueurs, peut-être encore les Français, mais pour le reste, il n'y a pas grand monde qui fait beaucoup mieux que nous actuellement.
Voilà, c'est sur cette note positive que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants pour la suite de notre programme. Comme chaque mercredi, place maintenant à l'histoire, à la rubrique historique. Ainsi étions-nous et le résultat d'une quête, celle d'Anita Rindt, fille de Paul et Adi Rint, tous deux juifs de Tchécoslovaquie qui se sont retrouvés, comme bien d'autres, dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Si la famille d'Anita Rint a miraculeusement survécu, cachée dans le sud de la France pendant toute l'occupation, presque tous leurs proches restés en Tchécoslovaquie ont, eux, péri dans les camps d'extermination nazie. Pendant plus de 30 ans, Anita Rint a fouillé les archives pour retrouver la trace de ses proches disparus. Radio Prague vous propose la première partie d'un entretien réalisé avec Anita Rint sur cette quête de longue haleine. Il s'agit d'un entretien réalisé par Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Anita Rint, bonjour. Vous avez été journaliste au Monde de 1969 à 1988. Et donc, au cours de votre carrière, vous avez séjourné à Vienne à la fin des années 1970 en tant que correspondante. Alors, ce n'est pas en tant que journaliste que nous vous accueillons aujourd'hui, mais pour un ouvrage que vous avez publié en 2010 aux éditions Gaussen, un ouvrage qui s'appelle « Ainsi étions-nous ». C'est l'histoire de votre famille qui a disparu presque entièrement dans les camps nazis. Et c'est l'histoire de votre quête pour retrouver les traces de cette famille. Et ces traces, elles mènent en Tchécoslovaquie, puisque c'est de là que votre famille était originaire. Alors justement, je vais commencer par vous demander très simplement de me dire en fait d'où venait exactement votre famille en Tchécoslovaquie, du côté de votre père et de votre mère.
Ils venaient de deux points opposés par rapport à Prague. Ils étaient tous les deux de Bohême. Et donc peut-être une autre partie était de Bohême-Moravie, mais ceux qui m'étaient le plus proche sont de Bohême, c'est-à-dire Bohême du Nord, Bohême du Sud. Donc maman, ma mère, Adi Rind, née Polak, elle était originaire du Nord, c'est-à-dire de Louny. Et donc et mon père, au contraire, lui, alors il était plutôt du Sud, c'est-à-dire de České Budějovice et de Kaplice, qui était un peu plus au sud que České Budějovice. Ils se sont rencontrés, en fait mon père faisait des études d'économiste, et ils se sont rencontrés à Prague parce que ma mère était un peu avant-gardiste, elle exauçait les vœux posthumes de son père, qui était un marchand de céréales en gros, et qui souhaitait qu'elle ait un métier, ce qui n'était pas du tout à l'époque quelque chose de courant. Donc elle avait fait des études de comptable et elle travaillait dans une banque à Prague. Et donc elle aimait beaucoup le théâtre, mon père aussi. D'après les photos, parce que moi à l'époque j'existais pas, j'ai constaté que j'étais une bande d'amis, qu'ils allaient nager ensemble, qu'ils allaient au concert, qu'ils allaient... Et il y avait beaucoup de cousins de mon père qui étaient pour la plupart universitaires et qui venaient, qui étaient médecins, philologues, il y avait des historiens. Bon voilà, ils habitaient à l'université à České Budějovice, mais ils se retrouvaient aussi à Prague.
Donc voilà. Vos parents évoluaient dans une communauté intellectuelle, culturelle à Prague, hein, disons, et en tout cas en Tchécoslovaquie. Alors, pour resituer un petit peu, puisque vous parlez français, hein, oui. Ça peut sembler surprenant peut-être aux auditeurs, puisque vous êtes, puisqu'évidemment vos parents sont tchèques d'origine. Vous êtes vous-même né en France. Alors un petit peu au hasard de l'emploi de votre père, hein, Paul Rint, vous êtes né en France un peu par le fruit du hasard. Et puis alors vous avez quand même eu très tôt de nombreux contacts avec la Tchécoslovaquie. Est-ce que vous pourriez un petit peu resituer juste comment est-ce que vous avez oscillé finalement entre ces deux terres, hein?
Ils se sont mariés en 1923 et mon père travaillait pour une... il avait une formation d'économiste, donc il travaillait pour une société américaine qui s'appelait l'APCO Petroleum. Et cette société l'a envoyé à Anvers, où il avait un poste. Et donc il est resté à peu près un an à Anvers et ensuite il devait aller, toujours pour la même société américaine, il devait aller à Düsseldorf. Alors, maman avait fait tous les bagages, etc. Et quasiment à la veille de faire embarquer les valises ou les malles, je ne sais pas s'ils avaient emporté beaucoup de choses avec eux, elle a reçu un télégramme de mon père qui lui a dit, très bref, qui dit « Düsseldorf annulé, Paris ». Et finalement, mes parents sont arrivés à Paris, donc en 1924, 1924-25. Et en 1925, ils sont arrivés à Paris. Mon père a continué à travailler pour cette société à Paris.
Et c'est comme ça que vous et votre jumelle, il faut préciser que vous aviez une jumelle qui est malheureusement décédée, que vous, donc, vous deux êtes nés en fait à Paris.
En fait, il y a eu d'abord un garçon, mon frère aîné de 3 ans, René, qui est né, lui, à Neuilly-sur-Seine. Et nous, 3 ans plus tard, on est arrivés en 1929, au mois de novembre, et maman ne savait pas qu'elle avait des jumelles, mais comme son gynécologue ou son accoucheur trouvait qu'elle était un peu volumineuse, on peut imaginer, puisqu'on était deux, elle me racontait toujours que... elle dit, oh, à la fin, je pouvais poser mon assiette et manger comme ça sur mon abdomen, sur mon ventre. Et donc, elle est allée à la clinique, mais elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle avait une grossesse gémellaire. Elle est arrivée à la clinique et je suis arrivée la première et l'accoucheur lui a dit, bah, écoutez, il y en a une deuxième. Et donc est arrivée ma sœur jumelle Marguerite.
Il faut qu'on avance dans le temps un petit peu quand même.
Oui.
Vous dites dans votre ouvrage que, évidemment, malgré le fait que vous soyez née en France, vous vous rendiez fréquemment petite en Tchécoslovaquie, voir votre famille, notamment à Kaplice. Évidemment, à cause de l'histoire et de la guerre qui approchait, il y a eu un moment donné où vous n'avez pas pu revenir. En tout cas, vous êtes partie définitivement. Alors, rappelez-nous un petit peu dans quelles circonstances vous avez vu la Tchécoslovaquie pour la dernière fois. C'est une date un peu spéciale quand même.
Oui, c'est une date très spéciale. En fait, depuis qu'on était toute petite et même avant notre naissance, tous les ans, on partait en grandes vacances de juillet à septembre à Kaplice dans la maison. C'était une grande maison. Mon grand-père était médecin. Il avait une grande maison à Kaplice. Et on partait là et on voyait tout le reste de la famille venait nous rendre visite, les sœurs de maman, etc. Nous, la dernière fois qu'on y est allé, c'était pour les grandes vacances de 1938. Donc, on est arrivé à Kaplice et on devait repartir en septembre, comme d'habitude. Et moi, j'ai eu une crise d'appendicite aiguë, donc il a fallu m'opérer d'urgence. Mon père, mon frère et ma sœur sont repartis en France. Moi, je suis restée avec maman à Prague jusqu'à ce que je puisse être debout. Mais à ce moment-là, il s'est passé quand même quelque chose de très triste parce que mes parents prévoyaient qu'en 1938, ça allait déjà très mal. Il y avait déjà en 1935 les lois de Nuremberg avec Hitler. Et donc, ils avaient décidé de rapatrier un certain nombre d'affaires de Tchécoslovaquie. Quand moi, j'étais malade, mais ils avaient préparé tout ça. Quand moi, j'étais malade en clinique à Prague, mes tantes, les sœurs de maman et mes oncles se sont occupés de moi. Et maman est revenue à Kaplice pour finir les bagages. Et à ce moment-là, une dame qui était locataire de la maison de mon grand-père avec son mari lui ont interdit l'entrée en disant qu'elle était juive et qu'elle n'avait plus droit à cette maison qui était notre maison familiale.
Déjà, voilà. L'atmosphère était très pesante à l'époque.
Ah oui, c'était déjà très significatif parce qu'il y avait déjà des partis politiques tchèques qui étaient très pro-allemands et pour le rattachement des Sudètes, des territoires Sudètes, donc à l'Allemagne. Et donc, on est parti, moi, parce qu'on se faisait beaucoup de soucis. J'étais déjà guérie et sur pied, mais on a pris le train le 10 septembre 1938, c'est-à-dire quelques jours avant les accords de Munich, qui ont abouti à l'annexion
Des Sudètes.
Sudètes par Hitler.
On va devoir faire un petit peu un saut dans le temps, malheureusement,
oui.
Pour résumer, ce qui est très difficile, évidemment, à résumer, parce qu'on ne résume pas une vie cachée, c'est-à-dire pendant l'occupation en France. Alors donc, comme vous disiez, vous voyez la Tchécoslovaquie pour la dernière fois le 10 septembre 1938, vous partez, vous vous retrouvez en France, mais en France, très vite, la guerre va rattraper le pays, la population. C'est donc une France qui va être occupée et vous et votre famille allez devoir vous cacher. Justement, dans votre ouvrage, vous faites le récit de toutes ces années noires. Vous avez été séparés, cachés dans des institutions religieuses, chez des paysans dans le sud de la France. Enfin, c'est une véritable épopée et puis une épopée que vous décrivez dans votre ouvrage. Évidemment, donc la guerre prend fin. Vous, par miracle et puis par chance peut-être, grâce à l'aide de personnes, vous avez survécu. Vos deux parents et puis votre frère et votre sœur, vous avez survécu. Et en 45, évidemment, vous pensez au reste de la famille, celle qui est restée en Tchécoslovaquie. Comment est-ce que ça se passe en 45? Est-ce que vos parents essaient de reprendre contact?
Oui, et je dois dire que si on a... Mon père était quelqu'un qui était très prévoyant. Et donc, on est parti de la zone occupée pour aller dans la zone libre, puis on s'est caché. Mes parents se sont cachés chez des paysans, et nous, mon frère et les jumelles, chacun dans une institution religieuse, assez loin les uns des autres, on a vécu séparés et enfermés. On n'a pas vu nos parents pendant 3 ans. Mais au moment de la fin de la guerre, évidemment, ma mère pensait tout le temps à ses sœurs et à tout ce qu'ils avaient, parce que les dernières nouvelles, c'était des cartes tamponnées par les surveillances des services de la Gestapo à Prague. Et donc, ils avaient juste donné quelques nouvelles en 1940 et depuis, on n'avait plus rien.
Donc, 5 ans sans nouvelles.
Ah oui, absolument sans nouvelles. Et si je peux rajouter quelque chose, mais je ne veux pas faire long, si vous voulez, il y a eu une époque, parce qu'à Prague, il n'y a pas eu de ghetto comme à Varsovie. Sauf que c'était la même chose, parce que les Juifs, à un moment donné, il y a eu des lois extrêmement sévères. Heydrich, qui était le bourreau de Prague, on l'appelait, était un bras droit de Hitler. Et donc, ils avaient décidé que les Juifs n'avaient plus le droit de louer et qu'ils devaient vivre les uns avec les autres. Et donc, il y a eu des rassemblements. Les cartes que nous ont envoyées, les dernières cartes qu'on a reçues en 1940, c'était des nouvelles. Ils disaient, on est tous réunis, maintenant on vit ensemble. Et c'est tout, parce qu'ils ne pouvaient pas dire plus dans leurs cartes. Voilà. Et donc, le 6 juin 1945, elle a envoyé 2 télégrammes à la Croix-Rouge tchèque de Prague pour demander des nouvelles, mais elle ne savait pas qu'ils avaient été réunis comme ça dans une adresse et qu'ils avaient perdu leur logement. Donc, elle a donné des adresses de sa sœur et de son autre sœur avec le mari.
Et c'était les adresses d'origine.
Oui, c'est ça, celles d'avant la guerre, si vous voulez, ou avant l'occupation et tout ce qui s'était passé pendant la guerre sous la botte des nazis. Et donc, elle a reçu une réponse lapidaire de la Croix-Rouge tchèque. Inconnue à cette adresse, donnez-nous des nouvelles, donnez-nous plus de précisions. Mais on n'en avait pas. Voilà. Donc, maman m'en a parlé, j'avais à peu près 14 ans, et dans mon fort intérieur, je me suis dit, ils étaient très discrets, ils n'ont jamais fait état de leur souffrance, comme beaucoup de gens, comme ça, y compris des rescapés des camps qui n'arrivaient pas à parler. Et moi, je me suis dit intérieurement, je veux retrouver toutes ces personnes, parce que j'étais attachée à elles depuis ma toute petite enfance.
Voilà, c'est donc avec cet entretien et la quête de longue haleine pour retrouver ses proches disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, une quête d'Anita Rindt, que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.